Isabel, c'est lequel? Ah oui, Pierre Gilbert. Formidable, non? Peut-être on va organiser quelque chose l'après-midi, je vais voir, on va discuter de tout ça, et peut-être on va faire quelque chose ici pour ceux du sanctuaire, pour vous. Et voilà. Mais je vous tiendrai au courant, pour, parce qu'il sera peut-être fatigué. Hein, il est plus jeune, hein, notre frère Gilbert. De toute façon, le matin, on aura Arthur, donc Gilbert pourra se reposer le matin. Puis après, on essaiera de le convaincre de nous faire une petite conférence, rien que pour nous. Ça vous plairait? C'est chouette. Ce matin, je vous invite à lire 1 Pierre 5, 8, 9. 1 Pierre 5, 8, 9. Ah, ben ça n'a pas l'air d'être ça. Hein. Oui, c'est ça. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons commencé une quête de ce qui est noble et de ce qui est bon. Dieu seul est bon. Et depuis que vous êtes nés de nouveau, est-ce que vous avez éprouvé un grand changement dans votre vie? 1 Pierre 5, 8, 9 nous dit que le diable rôde autour de nous, cherchant qui il va pouvoir dévorer, et que nous devons lui résister avec une foi ferme. Ça veut dire que quand on se convertit, on a un nouveau problème, c'est que le diable tourne autour de nous. Avant, il s'en fiche, il nous possédait, donc il s'en fichait. Maintenant qu'on est né de nouveau, il nous tourne autour pour voir qui c'est qui va pouvoir dévorer. Et nous pouvons lui résister avec une foi ferme. Être né de nouveau implique d'exercer une foi qui ne chancelle pas, d'exercer une foi qui n'est pas facilement détournée. Plus je rencontre des chrétiens, vous savez, depuis 68, j'en ai rencontré des chrétiens dans le monde entier. Et plus je rencontre des chrétiens, et plus je m'aperçois que beaucoup boivent une coupe amère qui leur est présentée et qu'ils s'imaginent à tort, eh bien, que cette coupe, elle, les autres en sont épargnés, qu'il n'y a qu'eux à qui ça arrive. Si Jésus vous parlait de la coupe amère que le Père lui a donnée à boire, je crois que vous seriez horrifiés. Sur terre, dans notre condition mortelle, mes frères et sœurs, chacun a des épreuves amères à supporter, mais plus qu'à supporter, à surmonter. Les parents, par exemple, qui voient leurs enfants qui s'éloignent du chemin de la foi, les parents qui sont dans une telle position connaissent un chagrin qu'on ne peut pas, donner une description. La femme dont le mari est cruel ou insensible peut aussi avoir un cœur brisé tous les jours. Les enfants de Dieu qui ne se marient pas peuvent aussi connaître une souffrance et une déception. Est-ce qu'on va mettre une échelle pour savoir qui c'est qui souffre le plus? Non. Je crois qu'on a tous ces souffrances que nous pouvons supporter et que nous pouvons surmonter. Il n'est pas question de dire ici, console-toi mon frère, les autres aussi ils souffrent. Moi, ça ne me console pas de savoir que les autres souffrent. Mais déjà, je me sens moins seul, je sais que c'est quelque chose qui est imposé. Il y a une raison. Mes frères et sœurs, après avoir bu votre coupe amère, parce qu'il faut la boire, nous avons tous une coupe amère à boire. Quand c'est pas la mer à boire, hein, mais c'est une coupe amère. Eh bien, il arrive un moment où il faut accepter la situation comme elle est. Se tourner vers Dieu et se tourner vers les autres. Et point barre. Je vous le dis, mes frères et sœurs, ne laissez pas l'apitoiement s'installer en vous. Il va essayer, mais ne le laissez pas s'installer. Ne laissez pas le découragement vous faire quitter le chemin que vous savez être le bon. Jésus nous a montré le chemin. À Nicodème qui lui posait la question, mais comment est-ce que c'est possible de naître nouveau ? De nouveau, Jésus a répondu et sa réponse, elle est toujours la même. Il n'a pas changé de réponse. À Thomas qui était curieux, qui a posé une question très intéressante, il a dit, Seigneur, comment pouvons-nous connaître ce chemin ? Comment pouvons-nous savoir le chemin pour arriver à cette vie éternelle ? Jésus lui a donné une réponse qui est éternelle, elle est toujours la même. Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul homme ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre réponse, les réponses sont toujours les mêmes. Parce que même si votre problème est différent de celui des autres, la réponse est la même. La solution est la même. Nous devons être nés de nouveau, nous devons être nés de l'Esprit, nous devons marcher maintenant sur le chemin, dans la bonne direction, avançant de plus en plus près du Père pour parvenir à la stature parfaite de Christ. Nous sommes sur un chemin et nous avons à avancer. C'est bien d'être sur le chemin, mais si vous n'avancez pas. J'ai lu un témoignage, celui d'une femme qui a gagné un concours. Je déteste les jeux, je risque donc pas de gagner les concours. Ma sœur Liliane, qui écoute le message maintenant, elle gagne des tas de concours, mais elle joue elle aussi. Hein, sur des petits trucs internet, alors elle gagne des appareils de photo, des iPads, des que sais-je. Enfin bon, c'est rigolo. Moi, ça me tente. C'est pas qu'un iPad me tente pas, mais j'aime pas les jeux, donc je joue pas. Et cette femme, elle avait joué. Et c'est bizarre, hein, mais il y a que les Américains pour faire des trucs pareils. C'était le concours du fauteuil roulant le mieux décoré. Bizarre, hein? C'est une femme qui était atteinte de sclérose en plaques et qui s'occupait du mieux qu'elle pouvait de son mari et de ses 5 filles qui étaient quand même en bas âge. Et elle avait donc un fauteuil roulant et elle a décoré son fauteuil roulant comme si c'était un fauteuil tout droit sorti des poupées Barbie, vous savez, un truc très kitsch, très, très, très bizarre. Mais est-ce là pour que ces filles puissent voir autre chose que son handicap? Elle était interviewée, elle a passé à la télé, puis j'ai lu aussi un article, elle a déclaré qu'un jour, elle a pris la décision de considérer son fauteuil roulant comme une bénédiction et de ne pas baisser les bras. Ne baissez pas les bras, mes frères. Appuyez-vous sur Dieu, sur ce que vous aimez, ceux de votre famille, sur vos amis qui sont fidèles, attachez-vous à l'honnêteté et ne vous laissez pas glisser dans la pente du découragement. Il y a toujours un moyen d'en sortir. Je ne sais pas si vous avez vu la pièce Hamlet. Eh bien, à un moment donné, il y a un des personnages, on ne peut plus son nom, qui dit « Quand tu as éprouvé et adopté un ami, accroche-le à ton âme avec un crampon d'acier ». Comment est-ce qu'on peut connaître le chemin ? Posait Thomas la question, il posait cette question. Comment est-ce qu'on peut connaître le chemin ? Comment est-ce qu'on peut connaître cet ami, puisque Jésus dit « Je suis le chemin ». Comment est-ce qu'on peut connaître cet ami parfait ? Eh bien, en lisant les Écritures, premièrement, mais aussi en regardant les frères et sœurs en qui Jésus-Christ vit, et en regardant comment ils font. Il y en a qui sont un bon exemple, il y en a qui sont un mauvais exemple. C'est inspirant. Même les mauvais exemples sont inspirants. Vous me connaissez, vous savez que je suis loin d'être un introverti. Mais je connais des gens qui sont introvertis, je les plains de tout mon cœur, je les regarde et je me dis, il ne faudrait absolument pas, j'ai vraiment pas envie d'être un introverti. Pourtant, je souffre d'être un extraverti, c'est pas rigolo, parce que c'est vrai que ma personnalité d'extraverti me cause parfois des problèmes. Mais je me dis, mais j'aime mieux être un extraverti plutôt qu'un introverti. Quand je regarde les introvertis, je me dis que ils connaissent bien d'autres problèmes que les miens, et moi j'aime bien les miens, je me suis habitué. Hein, je ne voudrais surtout pas changer. Mais aussi je vous dis que leur coupe, elle est aussi amère que la mienne. C'est aussi difficile, de toute façon. Alors je parle avec des introvertis, avec des extrovertis, et ce matin, je vous parle à vous qui écoutez ce message, qui est peut-être, vous étiez peut-être un extraverti ou un introverti. Si vous êtes un introverti, vous devez vous souvenir des dangers qu'il y a d'être introverti, parce que ça peut vous mener à ne penser qu'à vous-même, parce que ça peut vous conduire à essayer sans cesse de vous protéger. Et si vous faites ça dans votre vie, eh bien, vous allez arriver à détruire toute vie en vous-même, tout vécu. Vous allez rester immobile, comme ça. quelle que soit votre personnalité, même si vous êtes né de nouveau, il y a toujours des dangers, toujours des coupes amères à boire, toujours. C'est pas facile, c'est facile pour personne. N'imaginez pas que c'est facile pour une certaine catégorie de personnes, c'est pas vrai. L'introverti et l'extraverti peut étouffer la vie nouvelle que Jésus lui a donnée. Jésus vous a donné la possibilité d'être sur un nouveau chemin, mais si vous n'acceptez pas de boire la coupe amère, sans murmure et sans hésitation, vous risquez, n'est-ce pas, de ne pas avancer. Paul, il dit ça dans Romains 8, 6, il dit « L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Alors, la vie, ça bouge, ça évolue, et la paix, c'est-à-dire que vous pouvez évoluer en étant paisible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais intérieurement, d'une façon certaine et ressentie, vous pouvez avoir la paix. Vous voyez, personne ne peut traverser la vie en restant passif. Ce que Dieu nous dit dans la Bible et dans les exemples qu'on peut voir aussi au travers de nos frères et sœurs autour de nous ou en lisant des biographies, c'est très intéressant de lire des biographies, c'est que celui qui travaille efficacement à son salut, puisqu'il nous est dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, ben celui qui travaille efficacement à son salut, c'est celui qui marche, c'est-à-dire c'est celui qui avance, et qui avance avec vigueur, et qui agit en acceptant d'être dirigé, contrôlé par Dieu et son système. Et dans son système, il y a les coupes amères. Et dans son système, il y a des choses qui ne paraissent pas justes. Son système, le système de Dieu, se trouve écrit dans la Bible, mais il n'est pas que dans la Bible, il est aussi dans la vie de l'Église. Avec sa hiérarchie, avec ses parts de soumission et toutes ces choses-là. Il se retrouve, le système de Dieu, il se trouve dans la réalité de son Église, de la vie, de son royaume, dans la vraie vie au quotidien. Alors, dans ce système, il y a de l'ordre. Et évidemment, puisqu'il y a de l'ordre, on peut mettre le désordre. Et quand il y a le désordre, ça devient encore plus difficile. Il vaut mieux être en ordre. Et dans ce système, il y a des moments terrifiants. Dans ce système, il y a des moments de bonheur, il y a des moments de malheur sur le chemin qui mène au Père. Parce qu'on n'est pas seul sur ce chemin. Il y a plein d'autres gens avec des tas de difficultés différentes, parce que des tas de personnalités différentes et puis de situations qui sont créées parce qu'il y a les frottements entre les uns et les autres. Et ce n'est pas facile. Mais heureusement, il y a un maître. Qui est le maître dans ce royaume? Ce n'est pas toi, mon frère, ce n'est pas moi non plus. Le maître, c'est Dieu. Lui, le potier. Le potier est maître de l'argile. Nous, on est l'argile. Il va me dire, mais il n'y a rien de plus passif qu'une motte d'argile, pouf, comme ça. Et il décide de faire avec l'argile ce qu'il veut. C'est en cela qu'il nous donne le vouloir et le faire. C'est-à-dire que quand ça bouge, quand vous êtes modelé par une dépression, par toutes sortes de choses, c'est les mains de Dieu qui agissent pour vous donner une forme, pour vous donner une utilité. Avec le même argile, la même masse, il fait un vase d'honneur, il fait un vase d'usage vil, Romains 9, 21. Et parce que vous êtes livré entre les mains de Dieu. C'est une action de se livrer dans les mains de Dieu, de dire « Seigneur, j'accepte, modèle-moi comme tu veux. » Alors je me souviens quand j'étais un gamin, on habitait un petit village vigneron, quelques-uns je vous ai emmené là-bas. C'est un petit village sur les côtes du Lavaux qui s'appelle Rillé. C'est un très joli petit, tout petit village. Et puis on pouvait descendre à pied jusqu'au bord du lac dans une petite ville qui s'appelle Cuilly. Et avec mon frère, on descendait à Cuilly pour aller se baquer, on disait, c'est-à-dire pour aller au lac, pour aller au lac. Je ne vais pas dire pour aller nager, parce que moi, je ne nage pas. Je suis genre tenaille, moi, pour nager, vous voyez. Donc, mon frère, Eric, c'était toujours le premier qui était dans l'eau. Elle était glacée, l'eau du lac Léman, elle n'est pas chaude, hein, même en plein été canicule, elle n'est pas chaude. Et il criait, viens, elle est bonne. Alors moi, je restais sur la rive, puis j'étais très dubitatif, hein. Et puis finalement, j'entrais dans l'eau, mais très lentement, hein. Sa façon d'entrer dans l'eau rapidement était plus intelligente que ma façon de faire à moi. Il souffrait, bien sûr, mais moins longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Il souffrait, mais moins que moi, parce que moins longtemps. Ma façon peureuse, trouillarde, d'entrer dans l'eau me donner la douce et merveilleuse possibilité de bien ressentir centimètre par centimètre combien c'était désagréable. Après, vous vous étonnez que j'aime pas aller à la mer ou j'aime pas aller à la piscine. J'ai des souvenirs épouvantables de ces moments désagréables quand on allait se baquer, comme on disait. Mon frère, il savait comme moi, il n'était pas plus bête que moi, il savait comme moi que l'eau était froide. Il savait aussi bien qu'elle n'allait pas se réchauffer parce qu'on allait attendre une heure ou deux au bord de l'eau. Il savait très bien. Alors il acceptait ça, il acceptait ce fait et il se jetait dedans. On était descendu pour ça. Vous voyez, de toute façon, vous aurez cette coupe amère à boire, de toute façon. Alors, ayez du courage, faites tout sans murmure et hésitation, nous dit Philippiens 2,14. Mon frère, il ne rouspétait pas, et puis il n'hésitait pas, il sautait dans l'eau. J'ai lu quelque part cette phrase qui est gravée dans ma mémoire, et, parce qu'elle est tellement elle est vraie, elle dit, j'ai bien plus d'anxiété, moi qui assiste à ton combat, que toi qui es dans le combat. Et ça, c'est toujours vrai. Quand on est né de nouveau, mes frères et sœurs, on est sur le chemin et il faut avancer. Est-ce que quelqu'un peut me lire, ça serait intéressant, à haute voix, 2 Corinthiens 5,17, s'il vous plaît. Vous me lisez 2 Corinthiens 5,17 à haute voix, que je vous entende bien, qu'on vous entende dans le micro. 2 Corinthiens 5,17 dans votre bonne vieille version seconde. Ou Tob, ou ce que vous voulez. Allez, vas-y.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
Amen. Merci, frère Francis, c'est bien. Maintenant, je vais vous la lire dans la version Parole vivante. Si quelqu'un entre en communion vivante avec Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé, l'ancien état est dépassé, ce qui était autrefois a disparu, la nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau, tout cela du début à la fin est l'œuvre de Dieu, du début à la fin. Il y a un début, il y a une fin. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes sur un nouveau chemin. Tourné dans la bonne direction, la direction de la vie éternelle, la direction du Père. Qu'est-ce que c'est qui a disparu? Ce n'est pas vous. Vous avez disparu? Quand vous avez levé la main à la réunion, que vous êtes converti, vous êtes sorti de là en disant, mais qui suis-je? Tiens, mais je ne me connais pas. Non, c'était toujours vous. Qui a disparu? Ce n'est pas vous. C'est l'ancien chemin, cet affreux chemin qui mène à la perdition. C'est un nouveau commencement. C'est déjà commencé, il nous dit. Vous avez à vous mettre en marche avec des nouveaux principes. Et avec l'aide efficace de Dieu, qui sera toujours avec vous tant que vous voulez être avec lui. C'est seulement ainsi que vous êtes une personne nouvelle. Parce que vous êtes mis sur un chemin nouveau. Mais vous savez, moi, vous pouvez me placer sur l'autoroute. Si je n'avance pas, je ne risque pas d'arriver à... Il faut avancer. Ce qui est né de nouveau, c'est que vous n'êtes plus esclave du mal. Maintenant, vous êtes libre. Maintenant, vous êtes comme le vent. Tu vas où tu veux. C'est écrit dans Romains 3,8. On oublie trop souvent ça. Le vent, nul ne sait d'où il vient ni où il va. Vous connaissez ce verset? Et tout homme né de nouveau, toute femme née de nouveau est comme lui. Il va où il veut, le vent. Eh bien, tout être né de nouveau est comme le vent. Il va où il veut. Où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que je vais? Moi, je vais vers mon Père Céleste. Je le veux. Je me jette à l'eau. Je ne reste pas sur la rive. Bien sûr, je sais que ça va être difficile parfois. Il va y avoir des... Quand on se jetait dans l'eau, en plus, moi je buvais la tasse parce que j'arrivais pas à nager. C'était désagréable, et il y a des moments très désagréables, mais j'ai confiance en Dieu, alors je me jette à l'eau. Cette coupe amère, de toute façon, faudra la boire, alors hop, cul sec. C'est pas mieux, non? Je ne vais pas boire petite gorgée par petite gorgée en dégustant l'amertume, en disant c'est mauvais, c'est mauvais. Et puis embarrasser ma tête avec tout ça. Oh là là, que c'est désagréable. Oh, il y a encore combien de gorgées à avaler pour ça. Oh, quelle horreur, c'est affreux. Non, allez, cul sec. C'est pas comme ça qu'on fait avec un mauvais médicament? Eh bien voilà, il faut faire comme ça aussi. Ça signifie, mon frère, ma sœur, que tu acceptes que tout ça est imposé à tes frères et à tes sœurs et que tu fais partie de ce petit troupeau qui est sur chemin et que tu dois y passer à l'Europe cul sec. Ça signifie que tu acceptes que c'est comme ça et puis c'est tout. Et que tu acceptes de boire cette coupe amère en faisant confiance à Dieu. Après, il te donnera un morceau de sucre pour faire passer ça. Juste un petit morceau de sucre qui aide la médecine couler, la médecine couler, la médecine couler. Vous connaissez la chanson? Pleine de sagesse. Personne ne sait d'où tu viens quand tu te balades dans la rue, ils ne savent pas. Ni où tu vas, ils ne savent pas. Mais toi, tu sais. Tu ne t'apitoies plus sur toi-même, tu ne doutes plus. Tu n'es plus découragé, tu n'es plus seul, tu es engagé sur un chemin noble qui t'élève jusqu'au Père. Tu prends ton envol, tu renouvelles tes forces comme tous ceux qui se confient dans l'Éternel. Tu cours et tu ne te lasses pas sur le chemin, tu marches et tu ne te fatigues pas. C'est pas moi qui l'invente, c'est Ésaïe le prophète qui l'a dit, Ésaïe 40, 21 ou 31. Mais encore faut-il se mettre en marche. Faire les choses que Dieu dit de faire, affronter les difficultés comme Dieu dit de les affronter. Ton être intérieur ne se fatiguera pas si tu te poses dans cette position-là. Tu ne seras pas lassé, tu ne seras pas découragé, jamais. Pourquoi? Parce que tu décides, comme cette femme a décidé, voilà, cette chaise roulante, bon ben voilà. Ben je vais la décorer pour faire rigoler mes filles et gagner le concours. C'est terrible! Tu vois, le message de Jésus est le même. Le message de Jésus, c'est que tu peux avoir un royaume céleste sur la terre comme au ciel si tu décides que Jésus est le maître de tout. Tu lui remets toute chose. Ça ne veut pas dire que tu ne crois pas au miracle. Mais il y a des coupes amères que tu ne dois, qui ne vont pas t'être ôtées par miracle. Et des coupes amères qui ne seront pas ôtés par miracle. Nous, les pentecôtistes, je ne suis pas un pentecôtiste, mais disons que je suis pentecôtisant, c'est-à-dire je crois dans les dons spirituels et toutes ces choses, je crois dans les miracles. On est un petit peu trop axé sur les miracles. Il faut aussi se souvenir qu'il y a certaines difficultés que nous rencontrons qui sont nécessaires à notre épanouissement et aussi pour être un exemple pour les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de prier pour un miracle. On continue à prier pour un miracle. Mais en attendant, on ne murmure pas, on ne rouspète pas, on se tient d'une façon correcte. Amen. Tu vois, le message de Jésus est toujours le même. Et si tu penses comme ça, ça renouvelle quelque chose en toi, ton intelligence. Elle sera renouvelée par cette connaissance. Vraiment. Sinon, tu stagnes. Et puis, ça commence, il va y avoir de l'écume, des déchets, toutes sortes de trucs qui vont tourner en rond dans ta vie. Ce bonheur de pouvoir aller de l'avant avec fermeté, avec une foi assurée, ce bonheur, il est à la portée de tous, même des plus benêts, des plus désespérés. Sur ce chemin, il y a les frères et les sœurs, regarde-les. Ils t'aideront à parvenir au bout du chemin. Regarde-les, c'est toujours inspirant de voir comment se débrouillent les autres. Ça donne des idées. Et puis, donne-leur aussi ce que tu peux, parce que quand tu les regardes, tu vas voir leurs besoins. Alors donne-leur ce que tu peux, tu seras récompensé. Si nous donnons aux autres dans un bon esprit, eh bien, la Bible nous dit qu'il n'y a pas une meilleure façon, il n'y a pas de façon plus noble d'adorer Dieu que de faire ça. Un jour, une femme de l'armée du salut, une vieille dame, elle doit être décédée maintenant parce que c'était ça doit être en 69, 70, elle était déjà très âgée. Une vieille dame m'a secouru dans une rue de Lausanne. J'ai eu un problème cardiaque, je suis tombé. Et c'est elle qui s'est occupée de moi, elle m'a soutenu. Il y avait une clinique pas loin, elle m'a aidé à y aller jusque-là. En fait, elle m'a peut-être sauvé la vie, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour m'aider. Elle m'a donné un petit peu de menthe sur un sucre pour me m'aider. Elle était formidable, cette dame. Je serais très heureux de la revoir dans notre monde si je suis digne d'aller à l'endroit où elle est. Et chaque fois que, sur le chemin, vous faites du bien à quelqu'un, c'est à Jésus que vous le faites. Cette femme, elle m'a fait du bien à moi parce qu'elle avait les yeux ouverts, elle m'a vu, elle a vu Jésus, elle l'a fait à Jésus. On a un vitrail qui représente Martin. Martin, quand il a coupé son vêtement en deux pour le donner à un pauvre au bord de la route, un homme qui était nu, assis dans la neige, et lui, Martin, était sur son cheval avec un manteau. Il est descendu du cheval, il a coupé le manteau en deux, il a donné à ce pauvre vieux qui était là, dans la neige, à moitié nu. Puis Martin, il est rentré chez lui, il s'est mis au lit, bien au chaud, et au milieu de la nuit, une grande lumière est apparue dans sa chambre, et c'était Jésus qui était là avec le manteau. Et il a dit, ce que tu as fait à ce petit vieux, c'est à moi que tu l'as fait. Vous voyez, donc quand on regarde les autres, quand on fait attention aux autres, non seulement ça nous inspire, mais en plus, ça nous donne la possibilité de faire quelque chose pour eux, et en plus d'être récompensé. C'est un truc parfait. Sur ce chemin, c'est parfait. Et on glorifie Dieu. Et on démontre à toutes les puissances ennemies combien Dieu est grand dans toutes les situations. Et vous savez, tout ce que vous faites aux autres, c'est à Jésus que vous le faites. Et je dis que le cadeau, le don le plus facile à faire, c'est de donner un sourire ou un mot gentil, tout simplement. Ce n'est pas parce que vous êtes né de nouveau que tout est devenu nouveau. D'un coup de baguette magique. Commence la musique. Non, ce n'est pas le bébé de chaud chez nous. Il n'y a pas de baguette magique. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tout est nouveau. C'est parce que après être né de nouveau, c'est parce que après être né de nouveau, tu progresses sur le chemin où tu as été placé. Alors, tout est en train de devenir nouveau. C'est pourquoi je disais au début de mon message, être né de nouveau implique d'exercer une foi qui ne chancelle pas. La foi, c'est une action. Si ce n'est pas une action, c'est mort. Donc, être né de nouveau, c'est être placé sur un chemin où il y a des possibilités d'action avec des systèmes divins, des moyens divins. Et tant qu'on n'exerce pas, tant qu'on ne met pas en pratique ce système et qu'on ne marche pas selon les règles de ce système, ben, on végète au bord du chemin, on regarde les autres passer. Oh là là. Souvent, je pense à ma maman. Vous l'avez connue, la plupart d'entre vous. Le soir, elle regardait par la fenêtre du salon et puis elle voyait la lumière du soleil couchant là, derrière les arbres en face du château. Elle disait toujours, « Mon Dieu que c'est beau !» Alors moi aussi, je disais, « Ouais, c'est vrai, c'est très beau. » Mais maintenant que ma maman est partie et que je vois les couchers de soleil qui sont encore là, qui se répètent, je ne les vois plus comme avant. Avant, je les voyais beaux. Mais maintenant, je vois comme chaque fois que je vois ce soleil derrière ces arbres, je vois le sourire de ma maman. Je regarde autrement parce qu'elle m'a impressionné. Parce qu'elle m'a impressionné. Elle disait toujours « Mon Dieu que c'est beau ». Et ça m'inspire. Et depuis, quand je regarde des couchers de soleil, je les regarde autrement. Quand je regarde la beauté du parc, elle regardait. Il faudra qu'on replante cet arbre rouge au fond du parc. Vous vous rappelez de cet arbre rouge qui est tombé? Il faudra qu'on le replante. Là aussi, elle regardait et faisait, oh, ce qu'il est beau. Il faut qu'on le remette, il est tombé là avec une tempête. Tout ce que je vois en fait, tout ce que je regarde maintenant, je le regarde différemment parce que dans mon cœur, il y a le souvenir qu'a laissé ma mère. Quand vous aurez fini de marcher sur le chemin sur lequel vous êtes, et que vous serez arrivé de l'autre côté du voile, quel souvenir vous aurez laissé aux autres? Moi, je sais, par exemple, hier soir, j'ai encore rigolé, j'ai regardé Drucker. Et je sais que quand Sylvie Vartan est apparue sur l'écran, il y a des centaines de personnes, ceux qui regardaient l'émission, qui ont pensé à qui? À moi. J'ai laissé au moins ce souvenir à certains. C'est rigolo. On laisse quelque chose de toute façon. Quel souvenir vous laissez aux autres? Parce que c'est vrai que c'est en regardant à Jésus et aux frères et sœurs qu'on est inspiré à aller de l'avant. Vous les regardez, mais vous êtes regardé aussi. Et quelle impression vous laissez? Si vous deviez partir maintenant, quel souvenir on garderait de vous? Pensez à ça. Et me dire, oui, mais moi, mon gouvernail, il est vraiment tout petit. Ben oui, il est tout petit, ton gouvernail. Mais si tu l'as bloqué dans la bonne direction, eh bien, si tu le fais fonctionner avec détermination, ben, il pourra maintenir l'énorme navire de ta vie cet énorme navire en sûreté, sur les grandes vagues, au milieu des tempêtes. Parce que c'est un tout petit truc, le gouvernail. Mais c'est ça, donnez à votre vie la bonne direction. Vous êtes sur le chemin pour aller vers le Seigneur. Ne vous détournez pas. Ne vous détournez pas. Mon frère, ma sœur, si tu fais de bon gré tout ce qui est encore en ton pouvoir, tu peux être certain que le pouvoir de Dieu est avec toi pour te conduire au bout du chemin. On doit toujours faire ce qu'on peut et Dieu fera. Il y a un proverbe qui n'est pas dans la Bible, mais qui est quand même très sage, qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est vrai que si on est passif, si on ne fait rien, il ne va rien se passer. Mais si nous commençons à nous mettre en marche, en faisant de bon gré, avec bonne humeur, sans murmure, sans hésitation, si on fait tout ce qu'on peut pour arriver au but que nous nous sommes fixés, que Jésus nous a fixé, la main de Dieu sera sur nous pour nous aider, nous parfaire. Je le crois de tout mon cœur. Et nous serons intelligents. Et nous aurons l'énergie nécessaire. Parce que nous sommes des gens déterminés à arriver au but. Pas simplement déterminés à avoir le nouvel iPhone. Ou des trucs comme ça. Ou des machins là, terrestres. Mais le grand but de notre vie, c'est la vie éternelle. Notre grand but, c'est de quitter cette terre et puis d'être trouvé digne d'entendre Jésus nous dire « Entre dans la joie de ton maître. » Amen. Alors, fais tout ce qui est en ton pouvoir et Dieu fera tout pour toi. T'aidera et te donnera le morceau de sucre pour faire passer le goût amer. Et quand tu arriveras vers lui, en face de lui, eh bien, toutes ces vieilles choses, toutes ces choses désagréables par lesquelles tu passes, toute l'eau froide du lac Léman, tout ça, ça sera derrière, fini. On regardera des vidéos, puis on rigolera de tout ça. Parce que frères et sœurs, c'est rien à comparer toutes ces difficultés que vous avez, que j'ai, que nous avons. C'est rien à côté de la gloire qui nous est réservée pour après. Au nom de Jésus, je témoigne que c'est vrai. Amen. Jésus, je te demande de fortifier mes frères qui sont peut-être dans la peine en ce moment, de fortifier aussi mes sœurs, de les aider à avaler cul sec cette chose qui est désagréable. Ce moment difficile à passer, qu'il le passe rapidement, sans murmure, sans hésitation, en disant, voilà, ça, c'est fait. Maintenant, Seigneur, je compte sur toi. Merci, Seigneur, d'aider, de fortifier chacun. Je sais que sur le net, plusieurs écoutent. Je te demande, mon Dieu, de toucher leur vie, de les aider à faire face réellement, d'une façon virile, ferme. Ceux qui regardent aussi cette télé, qu'ils puissent être fermes. Et ne pas marcher comme moi je marchais au bord de cette berge en hésitant de mettre le pied dans l'eau. Seigneur, donne-leur d'être plus intelligents que ça et d'aller se jeter à l'eau, sachant que tu es toujours là pour les soutenir, pour les conduire, pour les réchauffer. Merci Jésus. Amen. Amen.